pourquoi lisons-nous et on enquête sur la lecture comme expérience. Dominique Rabaté lit le roman pour se trouver ou pour se perdre.
Je ne voudrais surtout pas faire un cours, j'ai suffisamment d'occasions pour les faire ici même. Ce que je voulais vous proposer, je ne sais pas, il faut que je regarde un peu l'heure, l'essentiel étant que nous discutions, c'est de partir du cliché qui est assez courant, une critique en tout cas très courante, pour dévaloriser les romans, pour dévaloriser les mauvais lecteurs de romans, les mauvais lecteurs de fiction. C'est donc l'idée souvent représentée, exprimée, que la lecture d'un roman passe par une identification spontanée. Et en général, une mauvaise identification, une identification massive, si on peut dire, hein, et qui serait mauvaise parce qu'elle vous détourne de vous-même. Et dans ces critiques traditionnelles depuis au moins le XVIIe siècle, hein, c'est souvent les enfants et les femmes qui sont ces lecteurs de piètre qualité parce qu'ils se laissent envahir par le livre et qu'ils adhèrent spontanément au personnage. Ces critiques, elles sont plus subtiles de la part de Paul Valéry, mais là aussi, elles sont centrées sur l'idée similaire, si vous voulez, d'une sorte de croyance naïve que le roman donc fonctionnerait comme une sorte de mauvaise identification du faire comme si. Et en général, on s'agace contre ce qui paraît la crédulité foncière consentie du lecteur. Voilà. Donc le thème que je veux bien discuter avec vous ce soir, c'est: qu'est-ce qui se passe dans l'identification qui a lieu quand on lit des romans? Est-ce que c'est une identification à un personnage? Est-ce que c'est une identification plus complexe? Le même procès que celui qui existe depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle, etc., est aujourd'hui relayé pour la télévision ou pour les jeux vidéo. Hein, on peut y revenir dans la discussion. En général, c'est toujours une critique d'une sorte d'adhésion, aliénation, même si pour la question des jeux vidéo ou de la télévision, il est évident que le rapport à l'image change la dimension imaginaire de l'identification requise. Voilà, donc la proposition que je voulais vous faire ce soir, c'est que beaucoup de ces discours reposent en fait sur une notion qui est elle-même peu interrogée, et c'est celle-ci que je voudrais aborder ce soir, c'est la notion d'identification. Et je voudrais dire que je pense qu'on a beaucoup réfléchi, beaucoup usiné, beaucoup trop d'ailleurs discuté de la question de l'identité, vous savez, non, que ça a même été un thème particulièrement nauséabond présenté lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, hein, identité nationale, etc. Enfin, bon. Curieusement, on réfléchit beaucoup à la question de l'identité sans interroger le processus même qui fabrique une identité, c'est-à-dire le mécanisme lui-même qu'on peut donc identifier comme celui de l'identification. Et je voudrais donc, pour ma part, et c'est des travaux que j'ai menés depuis quelques années, réfléchir à ce qu'on pourrait appeler l'identification du lecteur, au double sens du terme, de quelle manière le lecteur s'identifie et à quoi, s'il s'identifie, mais aussi de quelle manière le livre identifie son lecteur, d'une certaine façon, le suscite, hein, dans les effets que le livre provoque sur ceux qui le lisent. Avec cette idée que le lecteur serait cette espèce de figure caméléon, à chaque livre il deviendrait un autre, hein. Donc c'est une notion centrale et je trouve souvent confuse, où l'on réduirait le lecteur à la position de celui qui ne serait que dans l'immersion fictionnelle. De façon assez curieuse, d'ailleurs, on voit chez certains critiques de cinéma aujourd'hui l'idée que le cinéma en 3D, c'est mieux parce qu'il y a plus d'immersion, hein, qu'il faudrait... En gros, la bonne fiction serait purement immersive, qu'elle provoquerait une identification massive et voire un risque de dépersonnalisation. Hein. Vous regardez des jeux vidéo violents, vous devenez violent. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne aussi simplement. Hein. Et je voudrais ici mentionner un livre important qui a travaillé sur cette notion d'immersion fictionnelle, qui est le livre de Jean-Marie Schaeffer, en 97, qui s'intitule « Pourquoi la fiction ?», qui figure là sur la table à l'entrée. Hein. Jean-Marie Schaeffer, qui est philosophe et théoricien de la fiction, de la littérature, du cinéma aussi, revient sur les théories anciennes, Platon ou traditionnelles, et propose lui une autre approche des modalités propres aux univers de fiction, hein, c'est aussi bien le théâtre, le cinéma, les jeux, comme un modèle anthropologique ludique. Et je crois que c'est quelque chose de très important, hein, ce qui singularise l'espèce humaine, on peut le dire aussi pompeusement, hein, c'est bien l'idée que nous sommes à la fois des êtres de langage, mais que nous sommes capables de ces pratiques d'immersion fictionnelle, d'identification à d'autres objets par le biais du jeu, de l'art. Mais il montre justement, et c'est là-dessus que je voudrais poursuivre, qu'il n'y a pas d'identité sans distanciation. C'est-à-dire que, en vérité, je crois que si on interroge moins que l'identité, le processus d'identification, on s'aperçoit qu'il n'a lieu que parce qu'il présuppose, que parce qu'il met en œuvre ce qu'on peut appeler une distanciation. C'est ce que Diderot a montré aussi dans Le paradoxe sur le comédien. Et je ne ferai pas ici les analyses, mais il y a un très bon livre d'un critique de théâtre qui s'appelle Denis Guénoun, qui est aussi auteur de théâtre et philosophe, dans un livre qui s'appelle Le théâtre est-il nécessaire, qui réfléchit à cet attelage, si vous voulez, de l'identification et de la distance. Alors, moi je voudrais vous proposer une sorte de chemin inversé de cette histoire de l'identification, c'est plutôt de considérer qu'en vérité, quand on est dans ces rapports de fiction, quand on lit des romans, quand on regarde des pièces de théâtre, mais je m'en tiendrai surtout aux romans, ce qui opère, c'est tout autant un processus inverse que j'appelle pour ma part de désidentification. Et c'est d'ailleurs la conclusion du livre de Jean-Marie Schaeffer, hein, qui, après avoir étudié ce qu'il appelle l'immersion fictionnelle et comment ça marche et quel substrat anthropologique et de quelle manière ça fonctionne selon différentes formes d'art, critique partiellement Freud, qui voit dans la fiction une activité purement compensatoire et cathartique. Et Schaeffer note ceci que je vous lis, il dit « La réélaboration fictionnelle n'est pas une purge, au sens cathartique, mais une désidentification partielle. » Et il ajoute que contrairement aux situations réelles où prime une adhésion identificatrice à nos propres affects, l'immersion fictionnelle est le lieu d'une désidentification. Je trouve cette proposition très intéressante, même si je nuancerai de deux façons. Je ne suis pas sûr que la fiction soit une opération purement de purge ou cathartique, mais je passe là-dessus. Et je ne suis pas sûr que dans le monde réel, on soit aussi simplement dans des adhésions identificatrices, mais admettons. En tout cas, je dirais pour ma part que le mécanisme de toute identification suppose comme possibilité de sa réalisation une sorte de mouvement qui lui est consubstantiel, qui le dédouble si vous voulez, qui est un mouvement de désidentification. Et il me semble que quand on lit des romans, c'est ça qui se passe. Voilà, c'est ça que je voulais proposer, c'est qu'il se passe à la fois les mécanismes d'identification, mais aussi la possibilité, en interrogeant l'identification que je porte à tel ou tel personnage, ou peut-être parfois à la voix du narrateur, ou parfois à l'intrigue comme telle. Les identifications dans un roman, elles sont rarement massivement sur un seul personnage. Je ne suis pas sûr qu'on s'identifie qu'à un seul personnage. Et s'il y a plusieurs personnages dans un roman, c'est sans doute pour que nous fractionnions nos possibilités d'identification et que nous les fassions jouer. Hein. Mais aussi, je crois, en tout cas les bons romans, je crois, proposent de s'interroger sur ce mécanisme même, ou se posent de mettre une certaine forme de distance, de possibilité de représentation du mouvement par lequel nous nous identifions et nous permettent d'une certaine façon, à ce moment-là, de revenir sur des choses qui ne sont pas que un rapport littéraire ou esthétique, mais sur le mécanisme même dans la vie sociale, dans la vie amoureuse, dans la vie amicale, dans la vie générale de chacun, hein, sur le lien d'identification et de désidentification. Voilà, je pense que c'est pour ça que je voudrais revenir à cette activité de la lecture et à cette pratique qui est sans doute celle de la lecture littéraire quand elle absorbe et coupe du monde environnant, hein, mais pour, d'une certaine façon, c'est la proposition que je vous fais, observer le mécanisme, le processus de l'identification en tant qu'il implique à la fois un espace de distanciation, mais aussi, et c'est un complément pour moi très important, qu'il implique une mobilité du sujet. Justement, je trouve que c'est trop simple et faux de dire qu'il y aurait une sorte d'identification unique, une ère, je ne sais pas comment il faut l'appeler, massive, globale, enfin vous voyez ça, je dirais entièrement. Hein. Je pense qu'au contraire, dans la lecture du roman, ce qui nous est proposé, c'est une certaine intelligence intuitive de la mobilité de tout sujet dans ses rapports d'identification. Quelque chose qui permet au lecteur ou à la lectrice de se reconnaître sujet, justement. Hein. Et peut-être pas tout le sujet. Hein. Parce que, justement, la lecture nous mettrait aussi en rapport avec ce qui ne relève pas stricto sensu du seul domaine subjectif. C'est-à-dire que, pour, excusez-moi cette introduction un peu hard théorie, mais je pense que dans le rapport qui est ainsi créé, dans ce questionnement sur l'identification, nous sommes amenés à reconnaître ce qui est notre part subjective impliquée par le livre. Et si je dis notre part subjective, ça veut dire pas le tout du sujet, justement, pas tout moi, mais une part de moi-même. Et que je peux donc, voyez, comprendre un mécanisme qui est que je ne suis pas entièrement projeté dans l'identification, mais que je peux voir comment fonctionne quelque chose qui à la fois me mobilise comme sujet, mais est hors de moi ou différent de moi, ou quelque chose qui ne requiert pas exactement ma part en tant que sujet. Voilà. Alors c'était la proposition dans sa version un petit peu brute, un petit peu serrée. Et pour nourrir la conversation, je voudrais faire un petit détour par des citations d'un texte de Maurice Blanchot dans un chapitre qui s'appelle « Lire » et qui se trouve dans l'espace littéraire. Blanchot s'interroge sur ce que c'est que le lecteur. Alors il lui donne une espèce de figure très générale, mais j'aime beaucoup ce texte parce qu'il commence par une affirmation paradoxale. Voilà ce que Blanchot dit, et je trouve que c'est une chose qu'on dit rarement, qu'on lit rarement dans la critique. Il écrit donc « Ce que l'on tient souvent pour le... Pardon. Ce qui menace le plus la lecture... La réalité du lecteur, sa personnalité, son immodestie, l'acharnement à vouloir demeurer lui-même en face de ce qu'il lit, à vouloir être un homme qui sait lire en général. Et en fait, c'est assez frappant. Souvent, comme enseignant, je crois qu'il faut dire à ses élèves, à ses étudiants, qu'ils lisent de façon trop immodeste, qu'ils ne s'oublient pas assez, qu'ils tiennent trop à leur point de vue moral, qu'ils tiennent trop à leurs préjugés. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant d'imaginer que le bon lecteur est un personnage d'effacement, un personnage qui, justement, une personne, hein, qui accepte d'une certaine manière de ne pas demeurer lui-même, de devenir une puissance d'accueil mobile, on pourrait dire une pure disponibilité. Blanchot remarque aussi une chose que je trouve très frappante quand on y pense, parce que jamais personne... On partage l'expérience que sans doute écrire est une chose compliquée, sans doute angoissante. Enfin bon, je ne sais pas, peut-être que vous êtes des écrivains heureux, mais on a plein d'écrivains, Kafka, Flaubert, qui met 3 jours pour écrire 2 phrases. Enfin bon, la fameuse expérience de l'angoisse de la page blanche. Voilà, vous commencez à écrire, vous avez la page devant vous et ah, bon, rien ne vient. Blanchot fait remarquer, et je trouve que c'est un joli point de vue, il remarque qu'il n'y a aucune angoisse pour le lecteur de la page blanche. Le lecteur est un homme heureux, le lecteur est toujours prêt à lire, le lecteur est toujours prêt à commencer un nouveau roman, enfin là je parle de moi, mais, mais de tout lecteur un peu boulimique. Hein. Il n'y a pas d'angoisse de la lecture. Chaque nouveau livre qui se propose... Du moment que je peux d'ailleurs le laisser tomber, que ça ne m'intéresse pas, que je... Hein, le lecteur manifeste, dit Blanchot, toujours plus d'ignorance que de savoir. Il est prêt à une nouvelle expérience. Il manifeste un don, dit-il, qu'il faut chaque fois recevoir, acquérir et perdre dans l'oubli de soi-même. Alors, vous comprenez le titre que... C'est Christopher qui l'a trouvé, mais il me convient très bien, il était mieux, il était plus teasing que celui que j'avais proposé. Voilà, je pense que ce qui se passe dans la lecture littéraire, et si je le recentre plus exactement sur la lecture du roman, c'est effectivement cette capacité de se trouver et de se perdre en même temps. C'est pas une question de se trouver ou se perdre, c'est cette opération où les deux verbes, hein, recevoir et acquérir et perdre dans l'oubli de soi-même. Voilà. Et Blanchot remarque donc que le livre a besoin qu'on le lise. Qu'est-ce qu'un livre qu'on... Je vous lis ces deux paragraphes. Qu'est-ce qu'un livre qu'on ne lit pas? Quelque chose qui n'est pas encore écrit. Lire, ce serait donc non pas écrire à nouveau le livre, mais faire que le livre s'écrive ou soit écrit, cette fois sans l'intervention de l'écrivain, sans personne qui l'écrive. Le lecteur ne s'ajoute pas au livre, mais il tend d'abord à l'alléger de tout auteur, et ce qu'il y a de si prompt dans son approche, cette ombre si vaine qui passe sur les pages et les laisse intactes, tout ce qui donne à la lecture l'apparence de quelque chose de superflu, et même le peu d'attention, le peu de poids de l'intérêt, toute l'infinie légèreté du lecteur, affirme la légèreté nouvelle du livre, devenu un livre sans auteur, sans le sérieux, le travail, les lourdes angoisses, la pesanteur de toute une vie qui s'y est déversée, expérience parfois terrible, toujours redoutable, que le lecteur efface et dans sa légèreté providentielle considère comme rien. Je trouve assez joli que ces lignes soient écrites par un des plus grands commentateurs de Kafka, hein, parce que s'il y a bien un auteur... Les angoisses redoutables, hein, c'est tout le journal de Kafka qui en fait. Voilà, le lecteur est celui qui allège le livre, qui le rend à une sorte de légèreté. Hein. Lecteur, alors après ça tourne à du Blanchot plus typique, lui-même foncièrement anonyme, il est n'importe quel lecteur, etc. Alors, je ne partage pas pour ma part hein, l'idée d'un anonymat de ce lecteur. Mais je crois plutôt que justement, ce lecteur, c'est celui qui doit, d'une certaine manière, reconnaître la part subjective qui est mobilisée en lui par le livre. Voilà. Et que si ça, ça ne fonctionne pas, ce qui est toujours le problème quand on enseigne la littérature, si vous voulez, c'est que... Il y a deux façons de faire. Vous pouvez faire des cours d'histoire littéraire, vous pouvez... un voleur s'échappe. vous pouvez dire aux gens à qui vous enseignez, voilà, il faut lire ça, vous devez connaître ça, vous devez lire Homère, vous devez lire Racine, vous devez lire Proust. Voilà, vous pouvez massivement faire jouer l'injonction culturelle. C'est notre métier, c'est... Voilà. Si vous faites des études de lettres, il faut sans doute avoir lu ces choses-là. Mais en même temps, est-ce qu'un livre fonctionne s'il n'est pas véritablement l'objet d'une relation? Alors, c'est là que les choses deviennent un peu compliquées à dire. D'une relation qui est à la fois singulière et qui n'est pas forcément entièrement unique. Il y a aussi de mauvaises manières de lire, mais... Ce que dit Blanchot, là, me paraît important, c'est-à-dire que le livre ne s'écrit que dès lors qu'il est lu, dans ce contact-là. Un livre qui n'est pas lu n'existe pas. Vous pouvez avoir beaucoup de livres dans votre bibliothèque, si vous ne les ouvrez pas, si vous ne les lisez pas, si vous ne collaborez pas avec le livre, il n'y a pas de... Vous voyez, le livre n'existe pas en tant que livre qui est véritablement lu. Et donc, il me semble qu'à chaque fois, il faut aussi rappeler, quand on enseigne, ou comme lecteur, ou ce qu'on cherche comme lecteur, c'est justement cette mobilisation particulière d'une part subjective en nous qui n'est pas... Alors, je vais utiliser une formule de Jacques Lacan, vous me pardonnez, mais le patou du sujet, dit Lacan. Voilà. C'est pas le sujet qui devrait se reconnaître comme un tout, mais justement quelque chose qui lui échappe, sort de lui, n'est pas réductible à sa subjectivité entière. Voilà. Donc, moi, je propose de dire que quand on lit, que le texte conditionne l'engagement plus ou moins actif d'un lecteur, mais c'est qu'il provoque en lui l'identification nécessaire de la part subjective qu'elle mobilise en lui. Voilà, la formule est un peu alambiquée, mais je pense que s'il n'y a pas cette opération par laquelle, d'une certaine manière, et je ne dis pas que c'est un travail abstrait, ou je ne dis pas qu'on pose le livre et qu'on se dit « Ah, là, qu'est-ce que... Hein? » Mais qu'en gros, dans le processus de la lecture, quand vous lisez un livre nouveau, étonnant, dont la langue est nouvelle, dont l'univers est nouveau, qui provoque en vous des réactions, des émotions, un intérêt particulier... Et la meilleure preuve qu'un livre vous agrippe, c'est que vous le lisez tard la nuit, vous vous arrêtez pas de lire. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Qu'est-ce qui fait qu'il est 2h du matin, il serait plus raisonnable d'aller se coucher, etc. Et vous continuez à lire. Donc, il me semble que dans ce processus-là, il y a quand même aussi un travail qu'on peut faire, qui se fait intuitivement, de ce que j'appelle... La part subjective qui est mobilisée, et cette part subjective qui n'est pas forcément le tout du sujet, et qui provoque, je crois, ou qui nous permet d'interroger le processus de l'identification. Identification qui est, si on reprend la définition du terme, c'est un double mouvement. L'identification, c'est toujours... quelque chose qui est à la fois actif et tourné vers soi. C'est reconnaître autrui comme tel et devenir autrui. C'est percevoir les limites de ce qui n'est pas moi et être par là identifié. Se reconnaître sujet, c'est-à-dire subjectivité prise dans des effets de langage. Je passe un peu plus là-dessus. Bon, je ne vais peut-être pas développer de façon trop théorique là-dessus. Mais pour remarquer aussi quand même que je pense que c'est très compliqué. Si Blanchot dit que aucun lecteur n'est devant l'angoisse de la page blanche, enfin, ce serait très étrange d'imaginer psychiatriquement quelqu'un qui aurait une angoisse de lire des livres similaires à l'angoisse de la page blanche. Je ne sais pas si ça existe. Si vous connaissez des cas, je veux bien que vous me les disiez, mais je ne crois pas. De même, je crois que c'est très difficile d'imaginer, et ça va dans le sens que je veux suggérer ce soir, très difficile d'imaginer un lecteur qui serait le lecteur d'un seul livre, un lecteur de roman qui lirait qu'un seul livre. Alors que c'est peut-être ça, la lecture religieuse peut être la lecture d'un seul livre. Enfin, on sait, la Bible, le Coran, etc. Voilà. Je pense que le lecteur de roman, il est en fait attiré par cette espèce d'expérience renouvelée de ce que j'appelle le processus d'identification et désidentification, qui recherche après cette espèce de même processus par lequel quelque chose lui fait signe de la part subjective qu'il mobilise et en même temps de qui le désidentifie de lui-même. Je pense que le lecteur de roman est un personnage volontiers volage, qui est toujours prêt à partir pour un nouveau livre. Enfin, je ne sais pas si vous êtes jamais interrogé sur... Quand on finit un livre qu'on aime beaucoup, moi je viens de terminer le Elena Ferrante, je suis venu à bout des 4 volumes, je ne suis sans doute pas le seul, le 4e m'a un peu fatigué, j'étais un peu déçu, mais enfin je ne raconterai pas le 4e. Non mais vous voyez, cet état très particulier qui est le moment où on va quitter un monde qu'on aime, des personnages qu'on aime, une écriture qu'on aime, etc. Enfin bon, et cette espèce de ralentissement, et je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais quel est le livre suivant dans la pile que vous avez à côté de votre lit? Est-ce que vous vous jetez tout de suite sur un autre? Est-ce qu'il faut une pause? Est-ce qu'il faut lire le journal? Est-ce qu'il faut lire un livre de philo, un livre d'histoire? Est-ce qu'il faut lire une chose sérieuse qui ne vous demande pas cette identification imaginaire? Comment on se relance, comment on rechange comme ça de quelque chose, donc j'y insiste et je vais terminer là-dessus, qui à chaque fois me semble être une expérience de désidentification. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a en propre à la... au rapport esthétique avec la fiction, et je prendrai pour finir 2 exemples rapide pour les proposer à la discussion. Je ne sais pas si j'ai déjà trop parlé, mais je ne sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure? Ça va? Ça va. Alors, deux exemples célèbres d'expérience de lecture romanesque. Je dirais un mot d'un livre très, très évident dans ce contexte, qui est évidemment Madame Bovary de Flaubert. Parce que justement, Madame Bovary est un livre extraordinairement subtil et intelligent parce qu'il nécessite cette identification, désidentification. Le livre est tout autant une critique, on le sait, on l'a beaucoup dit, c'est ce qui a donné le nom de bovarisme. Le bovarisme est une maladie d'identification, voilà. Mais c'est aussi une maladie de l'aliénation, c'est une maladie des sociétés modernes, c'est une maladie des sociétés où nous vivons sur des modèles imaginaires prescrits, l'idée qu'il y aurait une vie plus pleine, voilà. Ce qui est depuis le romantisme, l'aspiration de chacun. Mais je crois qu'on aurait tout à fait tort de lire dans Madame Bovary un livre qui serait purement ironique et qui serait purement critique envers Emma Bovary. Je pense que le livre nécessite absolument la plus grande sympathie avec Emma Bovary, qu'il vaut mieux être Emma Bovary que le pharmacien Homais, qu'il vaut mieux être Emma Bovary que son mari Charles, dont on s'apercevra pourtant à la fin du livre, avec une sorte de retournement étonnant, que le seul homme qui a véritablement aimé Emma Bovary de façon romantique, c'est son mari crétin, médecin, raté, incapable d'opérer un pied beau. Je ne sais pas si vous vous souvenez du livre, mais celui qui est vraiment en deuil d'Emma Bovary à la fin, c'est son mari. C'est lui qui est dans le deuil absolument romantique. Et peut-être qu'en fait, l'amour qu'elle cherchait, elle l'avait juste à côté. Donc il y a toujours... Voyez, mais je crois que le roman de Flaubert n'est pas simplement la critique ou la dénonciation d'une forme d'aliénation par faiblesse subjective. Donc c'est la lecture C'est ce qu'on appelle le bovarisme. Il y a une sorte de faiblesse, et Madame Bovary est bien une femme plus faible sentimentalement dans ses processus d'identification. Voilà. Si on s'en tient là et qu'on lit le livre juste ironiquement, je crois que on ne fait pas attention au fait que tout le livre est en fait beaucoup plus intensément, beaucoup plus fortement, un très grand roman, parce qu'il est aussi un roman de l'empathie, de la façon d'entrer dans la pensée d'Emma Bovary. C'est un grand roman de l'écriture de la pensée intérieure, du discours indirect libre. Voilà. Et on oublie de remarquer aussi dans ce cas-là que le roman de Flaubert est un livre à point de vue variable. Le début du livre ne se fait pas avec Emma Bovary. Le premier personnage par lequel on verra Emma, c'est Charles. On a aussi le point de vue de Rodolphe, son amant, Don Juan de province, sur elle, etc. C'est-à-dire que l'ensemble du dispositif du livre inscrit ce mécanisme de perception croisée, d'identification et de désidentification. Voilà. Et donc je milite pour ma part à ce que on tienne l'activité de lecture d'un roman pour cette manière de nous faire rentrer dans un processus collaboratif avec des mécanismes qui sont dynamiques et qui sont des mécanismes autant d'identification que de distanciation, et que les deux vont de pair, et que ça ne peut pas, ne s'oppose pas, c'est pas, la distanciation ne vient pas casser l'identification, elle est intriquée à elle, elle est là. Le jeu au sens, comme dans une machine, il faut du jeu pour que les pièces tournent, que ça suppose. Et je voudrais vous parler pour terminer d'un autre roman, alors qui est sans doute beaucoup moins connu. Je vais amener, il est sur ma table aussi. Je vous en recommande la lecture si vous ne le connaissez pas. C'est le seul roman écrit par le poète Victor Segalen, juste avant sa mort. C'est un roman qu'il a écrit en Chine. Ça s'appelle René Laïs. Et René Laïs, c'est une très très belle histoire racontée à la première personne, un peu sous la forme de journal. D'un personnage qui présente la première personne, qui pourrait être Segalen, mais qui est un personnage de roman, et qui est en Chine et qui prend des leçons auprès d'un jeune homme d'origine belge qui s'appelle René Laïs. Et tout le livre est sur l'envie, le désir de mystification que ressent ce narrateur pour celui qu'il pense à la fois, René Laïs sera son professeur de chinois, mais surtout il pense que René Laïs est une sorte de personnage un peu romanesque qui a accès au palais interdit en Chine, qui est peut-être l'amant de l'impératrice, qui, voilà. Et c'est un livre très intéressant, sur notre désir de croire aux fictions. Voilà, sur notre désir d'être crédule, sur notre désir de vivre des choses romanesques, de rentrer à l'intérieur du grand mystère chinois, hein, et la déception progressive ou intermittente de ce narrateur, parce que René Laïs n'est pas, ou quand il s'aperçoit que René Laïs est lui-même un mythomane, c'est-à-dire, est-ce que c'est Laïs qui est un mythomane? Est-ce que c'est le narrateur qui veut croire à ces fables-là? Et c'est cette idée sur laquelle je terminerai avec une toute petite mention pour un détail du livre que je vais vous donner après. Mais c'est cette idée quand même, voilà, sur laquelle je terminerai, que le roman est aussi une façon de s'interroger sur un mécanisme qui est qu'en vérité, le fonctionnement même de toute subjectivité ou de tout processus intersubjectif, c'est le désir d'être dupe, c'est le désir de croire. Et que on reproche à la fiction d'être, vous voyez, la fiction, ce serait juste ce mécanisme naïf, Or, je crois que ça n'est pas du tout un mécanisme naïf, c'est un mécanisme fondamental des relations intersubjectives, hein, et que d'une certaine manière, c'est plutôt quand on ne veut pas être dupe, quand on ne veut pas être crédule, qu'on se trompe. Et il y a une célèbre formule de Jacques Lacan que j'aime beaucoup, qui écrit l'un des axiomes de sa théorie du sujet, qui est la question du nom du père, mais il écrit ça, les noms dupes errent. Hein, donc ceux qui ne sont pas dupes errent, divaguent, se trompent. Voilà. Le sujet qui croit échapper à la duperie des relations imaginaires intersubjectives est en vérité celui qui fait la plus grosse faute. Hein, et je crois que, d'une certaine manière, pour moi, l'expérience des romans, l'expérience de la lecture littéraire des romans, est une façon de nous amener à je ne sais pas s'il faut dire réfléchir, ça peut être réfléchir, moi c'est mon métier, j'écris de la critique et j'écris, voilà. Donc moi j'y réfléchis sans doute d'une façon, vous l'aurez entendu, un petit peu plus distanciée ou théorisée. Donc je ne dis pas que c'est sous cette forme-là, mais je pense que nous partageons, même si nous ne le verbalisons pas de la même façon, je pense que l'expérience fondamentale de ces moments d'identification que supposent les univers de fiction auxquels nous collaborons avec passion pendant le temps où nous les lisons, nous amène à réfléchir à cette espèce de mobilité d'identification et de désidentification. Alors, je terminerai par un tout petit détail. Et si vous lisez René Leys, il faut l'acheter dans l'édition de poche, qui est beaucoup mieux que l'édition. C'est le côté prof. Quand on vous dit faut choisissez bien l'édition. Non, mais qui est beaucoup mieux que l'édition imaginaire, qui n'est pas bien du tout. Moi, j'avais d'abord lu le livre dans l'édition imaginaire. Mais le livre de Victor Segalen est précédé d'un caractère chinois. Donc c'est un journal et puis il y a un caractère chinois. Bon, je ne lis pas le chinois du tout. Mais une note nous permet de savoir que le caractère chinois qui est à l'entrée du livre est donc indéchiffrable pour un lecteur occidental. Alors tout le livre c'est sur la question de savoir comment un occidental va pouvoir arriver à comprendre les mystères de la Chine, comme on pourrait parler. Donc, ce caractère chinois veut dire le grand dedans. Et Segalen, sur le manuscrit de son livre, qu'il a presque terminé avant de mourir, avait lui-même écrit, à côté de ce caractère chinois, Segalen a vécu assez longtemps en Chine, il a écrit d'autres livres sur la Chine, donc le magnifique livre de poèmes qui s'appelle Stèle, il a écrit « Traduction possible, être mis grandement dedans », c'est-à-dire être berné. Voilà. J'arrêterai là, et puis on peut lancer la discussion.
Merci.
Alors, ce qu'on pourrait dire simplement, la différence entre lire pour soi et lire à l'école ou lire à l'université, c'est qu'en vérité, ce qu'on fait à l'école ou à l'université, nous, c'est qu'on relit. C'est une opération un peu différente. C'est la même, mais c'est pas tout à fait la même. Et moi, mon métier, bizarrement, j'aurais passé ma vie à relire des livres. Et il y a un moment où, quand on a beaucoup relu, c'est presque comme si on relisait quand on lit un livre. Enfin, on apprend à avoir une sorte de... Ça marche tout seul. Et on note mentalement des trucs, on les note pour relire. Et c'est un métier de critique, ça. C'est pas un vrai lecteur. Le vrai lecteur, il est un peu ce que dit Blanchot. Il est d'une extraordinaire légèreté. Il fait ce qu'il veut. Moi, je dis pas ça du tout démagogiquement. Tous les usages de la lecture sont bons. Mais l'essentiel, c'est d'y prendre du plaisir. Si vous lisez juste en vous fouettant le matin, en disant « il faut que je lise ça, il faut que je lise ça », c'est horrible. Enfin, c'est pas la peine de faire autre chose. Il faut arrêter, il faut dire que c'est pas... Et contrairement à ce que disent aussi... Enfin, moi, je suis pas du tout à dire ce que je vous ai décrit, ça serait que la lecture. Il y a ce discours-là aussi. La littérature, c'est... Vous voyez, bon, très mollo. Ceux qui lisent pas passent à côté de leur vie, etc. Moi, je dirais simplement, ils perdent un plaisir particulier, c'est dommage. Mais comme quelqu'un qui n'est pas réceptif à la musique perd une dimension. Enfin, voilà. Cette expérience d'identification et désidentification, je pense que beaucoup d'autres choses vous permettent d'y réfléchir aussi. Le théâtre, les jeux vidéo, sous d'autres régimes. Le cinéma, de façon. Mais le cinéma, c'est autre chose parce que c'est hypnotique. Le cinéma, on est dans le noir, on a des images, enfin, ça ressemble à un rêve. Enfin, la structure même du cinéma, c'est l'hallucination onirique. Et c'est donc beaucoup plus passif aussi. C'est très rare qu'on quitte un film. Il faut être très très énervé contre un film pour partir. Au cinéma, vous endormez au pire, dans un grand fauteuil, etc. Alors que les livres, c'est plus... C'est une activité solitaire, la lecture. C'est une activité active. C'est une activité active d'envahissement par ce que vous lisez. Mais donc, moi, je dirais, si le moment où vous avez du plaisir, il ne faut surtout pas vous dire « je perds quelque chose », il faut dire « je touche quelque chose », au contraire. C'est là que ça agit. C'est là que quelque chose se passe. Il me semble. Ce que je voulais faire remarquer, mais de façon, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais un peu comme ça, enfin, disons, un peu à la façon dont fonctionne Derrida, voilà. Je pense que pour qu'il y ait identification, il faut forcément qu'il y ait désidentification. Donc, ce que je veux souligner, c'est que c'est un processus dynamique par lequel, quand vous commencez à réfléchir à ça, c'est plutôt la question de l'identité qui se met à faire problème. Parce que je crois qu'on est toujours pris. Alors, il faut bien cristalliser des identités. Et le monde social, le monde intersubjectif, est un producteur d'identité partielle. Mais je pense que les expériences esthétiques, et notamment les expériences esthétiques de la lecture du roman, ou les expériences esthétiques qui mobilisent une certaine compréhension de ce rapport d'identification, le théâtre aussi, absolument, sont intéressantes parce qu'elles montrent justement qu'il reste quelque chose qui, pour moi, relève d'une limite de la subjectivité qui est une forme de désubjectivation possible. Voilà. Après, ça engage de la psychanalyse, de la philosophie, et puis c'est des questions relativement compliquées, mais je pense quand même que, voyez, la critique, ça consiste à dire, voilà, tous ces gens très très crédules, très naïfs, toutes ces âmes simples, quoi, toujours prêts à, bon, on oublie que dans ce mouvement-là, quand même, il y a effectivement... Ça peut aller jusqu'à l'aliénation, mais ça paraît un peu caricatural. Mais effectivement, il faut aussi se désidentifier de soi-même. Et la lecture des romans est quand même aussi une sorte de mouvement par lequel vous sortez de votre monde, de votre manière de regarder le monde, de votre manière de parler le monde. Voilà. Et dans les expériences de lecture de romans les plus fortes qu'on puisse faire, c'est quand même aussi tout d'un coup de voir et de parler le monde autrement, absolument autrement. Enfin, Benji dans Bouée la Fureur. Ou... bon. Tout d'un coup, vous êtes projeté, voilà, mais pas sur le mode de la réénonciation du poème, sur un mode imaginaire particulier. Et je pense que dans ce mode imaginaire particulier, Je pense que la lecture des romans apprend une espèce de souplesse identificatoire, voilà. une mobilité morale et identificatoire qui est aussi une manière d'être à la place des autres, dans la tête des autres, etc. Voilà. Alors après, c'est lié à des remarques sur la nature du roman moderne. Je ne vais pas non plus vous infliger ça, mais... Voilà, ce mécanisme de désidentification, je pense qu'il est très important de le rappeler là où on veut beaucoup aujourd'hui assigner à résidence d'identité. Voilà. Je pense que c'est des mécanismes plus compliqués et que on ne fait pas tâche inutile dans l'enseignement des enfants, des adolescents, à leur faire... Mais c'est rarement fait comme ça. Je ne dis pas qu'il faut leur dire avant, mais c'est rarement... Non, mais vous voyez, c'est rarement porté par un discours... C'est porté par un discours culturel écrasant. Il faut... voilà. Il faut lire ça, il faut... Ça vous emmerde, mais c'est pas grave, il faut le lire. Non, non, mais le nombre de livres qu'on a lus au collège ou au lycée qui nous ont absolument ennuyés, voyez, sur lesquels il faut dire des choses, enfin, c'est... Moi, je suis très effrayé de ce que beaucoup de choses telles qu'elles s'enseignent découragent plus l'envie de lire qu'autre. Et donc, qu'il y ait quelque chose qui soit pas formulé comme ça, mais qui soit pensé quand même comme une manière de... Ce que dit Blanchot est très juste, là, le lecteur immodeste. Beaucoup de mauvais lecteurs qu'on a, je sais pas, des jeunes ou des petits, etc., sont des lecteurs sûrs d'eux. Oh, machine, elle fait pas des trucs, ah, mais c'est pas bien ce qu'elle fait, etc. Vous voyez ? Ils veulent pas, voilà, qu'ils restent dans leur... Donc, c'est quand même les faire rentrer dans une espèce de processus où la question de la désidentification de soi est une opération importante quant à la manière de pouvoir être un sujet qui n'est pas tout. Je reviens à Lacan, mais je tiens beaucoup à ça, pas tout du sujet.